Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence qui fait du bien. Ta présence qui nous détourne ce qui ne va pas et nous tourner vers toi. Parce que tout est en toi. Tout est centré sur toi, comme nous l'a rappelé Laurent tout à l'heure. Nous voulons regarder pleinement à toi. En toi est toute la plénitude et toute la vie et toutes les promesses. Et Seigneur, nous appelons vraiment, Seigneur, la réalisation de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Nous appelons le ciel sur la terre dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, Seigneur, dans cette église, dans nos situations. Nous appelons, Seigneur, ton oui. Nous appelons ton plan maintenant, Seigneur, sur nos situations. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'appelons aussi dans ce moment où nous allons ouvrir ta parole. Seigneur, viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Viens aussi te révéler à nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, du pain frais, d'une pensée, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, encore plus loin avec toi, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles ce matin. Et je réalise maintenant en vous parlant que le PowerPoint que j'avais prévu, eh ben, j'ai oublié de le mettre sur l'ordinateur. Donc, merci. J'espère que vous avez pris vos Bibles ce matin, et vos smartphones, pour lire avec moi quelques versets sur lesquels j'aimerais m'arrêter avec vous. On va lire dans Philippiens 3, donc Philippiens au chapitre 3, et les versets 13 à 14. Donc, l'épître de Paul aux Philippiens, juste deux versets. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant, ou certaines traductions disent me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Un verset tout simple, tout court qu'on connaît. Qui parle de prix, qui parle de courir, qui parle d'une carrière qui est ouverte, d'une épreuve selon les traductions. Donc c'est vraiment dans le sens sportif aussi, du terme aussi, hein, il y a cette idée de course. On peut lire un deuxième texte qui va dans le même sens aussi. C'est dans Hébreux au chapitre 12 et les deux premiers versets. Hébreux, donc l'épître aux Hébreux au chapitre 12 et les versets 1 à deux. C'est magnifique, ils ont même affiché ça. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la carrière dans le sens sportif qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Voilà, donc il y a dans ces deux textes, si vous remarquez, il y a une notion qui revient, c'est la notion du regard, notion de regarder. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a certaines choses, c'est vrai qu'on regarde des fois par erreur, par distraction ou par hasard, par accident, et il y a d'autres choses qu'on regarde volontairement. Des bonnes, des fois, et des moins bonnes. Donc le regard, vous voyez, c'est important. Et des fois, consciemment ou inconsciemment, ce qu'on regarde, ça a un impact sur nos vies, sur notre comportement. Et ça peut rester ce qu'on regarde, on dit que les yeux sont la lampe du corps, donc ce qu'on regarde, ça peut s'imprimer en nous, ça peut imprimer notre mémoire et ça peut avoir un impact plus ou moins fort sur notre aujourd'hui, ce qu'on fait. Et spirituellement, c'est valable aussi. Et j'aimerais vous poser une question ce matin, spirituellement, où est-ce que vos yeux regarde aujourd'hui. Où avons-nous tourné notre regard en ce moment? Et dans ces deux textes qu'on a lus, on voit qu'il y a un mouvement du regard. Il y a vraiment une intention de Paul qui dit il y a une sorte de mouvement en avant. Il y a une invitation à ne plus regarder certaines choses et une invitation à regarder d'autres choses, dans une autre direction. Alors, on va d'abord voir ce matin, c'est tout simple, ce que j'aimerais partager avec vous, dans quelle direction on est invité à ne pas regarder, et après on verra dans quelle direction il faut regarder. Alors, la première chose que Paul nous dit, ne plus regarder où, dans ces deux textes, en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, nous dit l'apôtre Paul. C'est vrai que nous avons parfois des difficultés par rapport à notre passé. Et Paul en est conscient. Il sait que notre passé, ce qu'on a vécu, peut avoir un rôle sur notre aujourd'hui. Et il nous exhorte finalement à arrêter de regarder certaines choses de notre passé. Il vaut mieux les oublier. Ah bon ? Il faut oublier ? Est-ce que vous pensez qu'on peut gommer son passé ? C'est un peu étonnant, non ? Personne ne peut le faire. Notre passé fait partie de nous et constitutif de nous. Mais vous savez, il peut se présenter à nous un choix par rapport à notre passé. Il peut se présenter, il peut arriver que quand on regarde notre pensée, notre passé, on peut peut-être s'apitoyer sur ce qu'on a vécu, sur nous-mêmes même, ou ce qu'on a fait. Et aussi à l'inverse, par rapport à notre passé, on peut avoir une autre attitude qui est peut-être de s'imaginer, de rester dans des belles choses du passé et de fuir notre présent en, vous connaissez cette phrase, en se réfugiant dans le « c'était mieux avant ». Vous avez déjà entendu ça ? « C'était mieux avant ». Jamais, je pense. On ne vit pas dans le même monde. Mais l'apôtre Paul va dire « je fais une chose ». Donc vous voyez, il y a une volonté. Il implique sa volonté. Il dit « je fais ». Je fais une chose oubliant. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous vient comme ça, qui nous tombe dessus, le Saint-Esprit qui tombe dessus ou qui nous fait d'un coup comme ça, en un instant, comme si on avait chopé un virus. Hein, en ce moment, peut-être l'image vous parle. Et puis d'un coup, vous avez chopé ça et puis vous avez oublié votre passé. Il y a aussi une volonté. Alors bien sûr que le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit peut faire des choses vraiment miraculeuses dans notre vie, mais il y a un positionnement à avoir, un acte délibéré de notre volonté. Parce que quelque part, Dieu ne nous dirige pas comme des robots dans notre vie, ne nous dirige pas comme des pantins, mais il nous laisse une volonté, il nous laisse une volonté qui implique des choix. Et on peut voir que, suivant le passé qu'on a vécu, on peut faire des choix différents. Et j'avais ce matin un dessin dans l'Auderset à vous passer, mais que je vais essayer de vous l'expliquer. On va essayer de visualiser ensemble. C'est un dessin où on voit, en fait, c'est dans une de ces BD, Idées reçues, on voit un homme qui voit deux jumeaux, et puis l'un est à une bouteille, est alcoolisé, un peu... marginalisé, et puis l'autre est costard-cravate, avec son petit garçon, bien tenu. Et puis il dit, mais il est effaré de voir ces deux personnes. Il dit, je ne sais plus comment il dit, mais comment ça se fait que toi tu es anti-alcool, et puis toi tu es dedans, et puis les deux répondent en chœur, ah, si tu avais su le père qu'on a eu. Si tu avais... Donc, en fait, ils ont eu un père alcoolique, et en fait, il y a eu deux réactions différentes par rapport à ça. L'un est à sombrer dans l'alcool, et l'autre... jamais je revivrai ça. Donc, ils ont vécu un positionnement par rapport à la même chose qu'ils ont vécu. Alors, c'était un peu cette illustration. Qu'est-ce que je fais ? Et c'est ça que Paul veut dire par rapport dans ce texte, dans ces textes qu'on a lus, par rapport à ce passé. Et Paul, lui, fait cet effort, ce positionnement, d'oublier ce passé. Il a pris cette décision. Alors, je ne suis peut-être pas en train de dire ce matin qu'on ne peut pas témoigner d'expériences qu'on a vécues, bonnes ou mauvaises. hein, je ne suis pas en train de dire ça, qui peuvent aider peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre vraiment un témoignage qui rend gloire à Dieu et à sa puissance, à ce qu'il a fait dans notre vie, d'où il nous a peut-être sortis. Je ne suis pas en train de dire ça. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai lu un témoignage de quelqu'un, d'une sœur de l'Église, qui a écrit son témoignage. Et c'était très beau parce qu'elle l'a écrit aussi pour sa famille qui ne connaît pas le Seigneur. Et elle avait envie de mettre ça sur papier. Et c'est beau, c'est encourageant de voir ça. Et elle n'a pas caché ses difficultés, ses défis. Ce n'est pas dans ce sens-là que l'apôtre Paul, je pense, parle. Mais il nous montre que notre passé peut nous causer des pièges. Et j'aimerais voir avec vous quelques exemples cités de la Bible pour montrer cela. Il y a un exemple que Jésus prend, qui est l'exemple de la charrue. Jésus dit, dans Luc 9, verset 62, « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » En lisant cette parole, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Si j'ai envie de tenir une charrue et de regarder en arrière, c'est quoi le problème? Vous êtes d'accord? Alors, je vous encourage à faire le test. Bon, peut-être si vous êtes citadin, ça va être difficile de trouver une charrue à Lausanne. Mais si vous habitez la campagne, peut-être vous avez une possibilité d'aller essayer. Enfin, si vous êtes en ville, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez marcher sur un trottoir, marcher en regardant en arrière. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Vous risquez de vous retrouver sur la route. Et en tout cas, à un moment donné, ça peut arriver. Et si vous essayez de labourer en regardant en arrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne labourez pas droit. Vous n'atteignez pas le but et ce n'est pas du bon boulot. Et ce que Jésus veut dire par là, c'est que regarder en arrière, cela nous détourne de la ligne droite de ce qui est là devant nous. Ça nous écarte du but. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, et peut-être qu'il y en a parmi nous, s'étonnent de ne pas avancer. Ce n'est pas étonnant. Ils ont toujours les yeux sur leur passé. Ils sont toujours en train de regarder en arrière. Et il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui illustre bien cela, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, ce peuple d'Israël qui, là, l'exemple est un peu plus dramatique, parce que ça ne les a pas juste empêchés d'avancer, ça les a amenés à tourner en rond. C'est le peuple d'Israël juste après sa sortie d'Égypte. Et je vous lis juste un verset qui en parle de l'attitude dans laquelle ils étaient par rapport à leur passé. C'est dans Nombre 11, donc le chapitre 11 et le verset 5. Je le dis pour ceux qui prennent des notes, mais je voulais le lire. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Ils ont le sens des affaires. C'est gratuit. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Et de l'ail, vous sentez là la recette, les bonnes odeurs. Je vous donne faim, ça va, on n'est pas encore trop près de l'heure du repas. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. C'est dingue quand même. Hein, ils sont tellement en train de regarder en arrière qu'ils ne voient même pas la manne. C'est quand même un miracle de Dieu. Tous les jours, du pain descend du ciel. Et ils sont tellement en train de regarder en arrière qu'ils ne voient plus ce qui est là, sous leurs yeux. Et Dieu ne va pas du tout aimer ça. Il ne va pas aimer ça du tout. Parce qu'ils n'ont plus les yeux fixés sur la promesse. Ils sont en route vers un pays promis, vers la promesse de Dieu. Et ils sont en train, finalement, de rater l'objectif, à tel point qu'ils vont errer 40 ans dans le désert. Tout ça parce qu'ils regrettaient les avantages, je dirais, entre guillemets, qu'ils avaient pendant les 400 ans où ils étaient en Égypte. Eh oui, ils ont peut-être oublié quelque chose. Et ça, c'est typique de notre nature humaine. Moi, je me reconnais tellement dans le peuple d'Israël. Parce qu'ils voulaient le beurre, vous savez, et l'argent du beurre. Et je crois qu'il y a une suite à ça. La laitière et le pot, etc. Ils voulaient la libération, parce que quand même, ils ont juste un peu oublié que ramasser des coups de fouet, construire des grandes bâtisses, pas pour eux d'ailleurs, hein, pour qu'aujourd'hui on puisse aller visiter ça avec des petits avions là-bas, c'est magnifique. Construire des choses, voilà. Tout ça, bien sûr qu'ils ne le voulaient plus. Santé. Ça, c'est... Sort. Voilà, ils ont voulu être libérés, comme Sabine a voulu être libérée à ce moment de tout ce qui... Il a voulu cette libération, mais il voulait la libération avec quand même les avantages du passé. Vous savez, on est un petit peu comme ça. On veut vivre des grandes choses avec Dieu, on veut vivre des choses extraordinaires, mais on n'est pas toujours prêt à payer le prix. Oh oui, on veut le réveil, mais pas le travail qui l'accompagne. Je discutais cette semaine avec quelqu'un à l'église qui était venu, qui racontait comment... Il était de passage, et il racontait comment ils ont, en 2014, ils ont implanté une église, pas loin d'ici, et que vraiment, ça a été une bénédiction. L'église a grandi, aujourd'hui, ils sont une centaine de personnes. Et il disait que c'était extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Mais il y avait, dans sa voix, il disait, mais ouf, quel travail. Oh là là, il fallait, ça marchait un temps, ils étaient jeunes convertis, ça retombait, il fallait aller les visiter, il fallait prendre du temps. Et puis, il était heureux d'avoir vécu ça, était heureux de voir l'église qui allait bien, était heureux de voir ces jeunes qu'il avait suivis au départ être responsables maintenant, mais il était dire, waouh, j'ai envie de faire autre chose maintenant. C'est bon, j'ai donné. Mais il regrettait pas ce qu'il avait vécu, mais c'est juste, il réalisait que c'était un travail énorme. Alors, attention à cette attitude qu'avait le peuple d'Israël, à ce piège-là dans lequel ils sont tombés. Vous savez, c'est ce piège, ils avaient oublié qu'ils souffraient en Égypte. Ils voulaient les avantages. Et il y a des fois cette idéalisation du passé, cette radio-nostalgie. Vous connaissez la radio-nostalgie ? Radio-nostalgie. Ah ! Et certains de nous, on pourrait tomber dans ce travers. On regrette le passé. Et même si des fois, ça, pour certains chrétiens, par rapport à leur passé, on a prié ce matin pour l'Ukraine, mais pour ceux qui sont dans des pays persécutés, ils perdent leur travail, ils perdent leur situation, ils perdent leur famille, ils perdent beaucoup, et ça peut être compliqué à un moment donné, de dire, mais peut-être de regretter. Vous savez, ça peut même être un regret, pas seulement pour les choses qu'on perd, mais pour les bénédictions qu'on a eues, qu'on a vécues. Ah, les bénédictions passées. On peut vivre dans ce passé, dans cette gloire passée. Alors bien sûr qu'on peut le dire, hein. Je pense qu'on peut parler de ce que Dieu a fait dans le passé, et si c'est pour compter les bienfaits de Dieu, mais si c'est pour y vivre. Ah, c'était tellement bien du temps du pasteur un tel. Tellement bien. Ah, c'était tellement bien. À ce moment-là de notre fédération d'église, ah, tout ce qu'on faisait, c'était tellement bien. Et on s'agrippe des fois à ça. Des pasteurs, même, s'agrippent. Mais si vous parlez avec certaines personnes, vous dites, ouais, ou d'autres personnes, moi j'ai vécu cette période, puis il y avait quand même ça, c'était pas si... Ah bon, je ne savais pas. Ah ouais, puis il y a ça, il y a ça. Vous savez, on se souvient souvent des bons moments. On retient souvent les bons moments en général, du temps de ceci ou de cela, voilà. Et on peut des fois tomber, attention de ne pas tomber dans le cafard spirituel, le blues spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Comme je disais tout à l'heure, le fameux « c'était mieux avant ». Je lisais cette semaine un article à ce sujet. Et voilà quelques éléments qui ressortent dans le « c'était mieux avant ». Dans le présent, nous sommes plus sensibles au négatif qu'au positif. Et il faut dire que les médias nous aident à cela, n'est-ce pas ? Tandis que la mémoire, en revanche, retient le positif et oublie le négatif. C'est que nous préférons ce que nous, car ce que nous préférons est généralement ce que nous avons déjà expérimenté, et ce dans tous les domaines. Il s'agit là aussi d'un biais cognitif mis à jour au XXe siècle par un psychologue américain, Robert Zajonc, je ne sais pas si je prononce juste, et qui est appelé l'effet de la simple exposition. Plus nous sommes exposés à un stimulus, objet, personne, plus l'attachement pour le stimulus grandit. Donc c'est une réalité. On a tendance à idéaliser le passé aussi. Et c'est de là que vient « c'était mieux avant ». C'est un biais cognitif. Mais la Bible en parle. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, il est dit, dans Ecclésiaste 7, verset 10, il est dit « Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. » Ah, il dégaine vite à la projection, bravo. « Car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » Alors, ne tombons pas dans ce piège. Souvenons-nous d'Israël, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a tourné 40 ans dans le désert. Et vous savez quoi ? Ils sont sans doute morts avec leur nostalgie. Et ils ne sont pas morts dans la joie. Regarder en arrière peut nous faire tourner en rond. Un autre exemple, encore plus dramatique, c'est la femme de Lot. Vous connaissez ce récit qui se trouve dans Genèse 19. Et Jésus, d'ailleurs, il va faire écho dans l'évangile de Luc. Il va dire « Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenons-nous de cette femme. » Et cette histoire de Sodome et Gomorre, vous la connaissez bien. C'était une ville où il s'est passé des choses terribles. Et Lot, il vivait avec sa famille et sa femme et ses enfants et ses beaux-fils. Et il vivait au milieu de tout ça. Et puis, l'ange avait donné cet ordre. Il allait détruire cette ville. Et je vous lis juste le verset 17 du chapitre 19 de la Genèse. « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Voilà cette parole de Dieu qui dit « Ne regarde pas en arrière. » Vous savez ce que la femme de Lot a fait, elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi a-t-elle regardé en arrière ? Bonne question. Il y a plein d'hypothèses, la Bible ne le dit pas. Peut-être qu'elle avait peur, parce que ça a fait un grand bruit, ce feu et ce souffle qui tombe du ciel, et puis elle s'est retournée. Peut-être qu'elle était curieuse, voir ce qui allait se passer derrière elle. Peut-être qu'il y avait, je sais pas, de l'hésitation. On se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je quitte, est-ce que je reste. Peut-être qu'il y avait de l'incrédulité. Mais en fait, je ne crois pas vraiment à cette parole de Dieu ou de l'ange. Ouais, je suis Lot parce qu'il faut suivre Lot, mais est-ce que ça va vraiment se passer ? Ouais, je jette un coup d'œil. Peut-être qu'elle avait des regrets. Elle laissait sa vie derrière elle. Toute sa maison, tout ce qu'elle avait. Alors, on ne sait pas la véritable raison pourquoi elle s'est retournée, mais on sait qu'elle s'est retournée et qu'elle a regardé en arrière. Et on peut le comprendre quand on y laisse toute sa vie, qu'on abandonne, vous savez quoi ? On abandonne son moi dans cette ville, dans ces flammes. Et ça, c'est dur. C'est dur de le faire. Et j'avais entendu qu'un prédicateur dire ça et ça m'a frappé. En fait, elle était sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas sortie d'elle. Et combien de fois on est sorti de certaines choses dans nos vies, on a quitté certaines choses, mais il y a encore des attaches. Ce n'est pas totalement sorti de nous. Alors souvenons-nous de la femme de Lot, comme dit Jésus, qui, parce que regarder en arrière à ce moment-là, c'est nous immobiliser. Elle est devenue une statue, c'est se rigidifier, ne plus être en mouvement. Pire que ça, c'est mourir. C'est être paralysé. Mais j'aimerais quand même terminer avec un exemple positif, vous êtes d'accord? J'aimerais quand même que vous repartiez. Dire, mais quand même, est-ce qu'il y en a qui ont quand même pu couper avec leur passé et avancer? Est-ce qu'il y a des exemples? Alors, il y en a un. Il y a un homme qui l'a fait. Bon, sans doute d'autres. Hein. Je n'ai pas parcouru toute la Bible. Mais il a coupé avec son passé, c'est Élisée. Vous savez que Élisée, c'était, il a été appelé par Élie à être prophète à sa suite. Et on voit qu'il est en train de travailler dans les champs avec ses bêtes. Et voilà que dans 1 roi au chapitre 19, je vais rapidement lire le verset, il est avec ses bœufs en train de labourer et il va offrir ses bœufs en sacrifice. Il les offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, donc chair des animaux, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Voilà un homme intelligent qui s'est donné les moyens de ne pas revenir en arrière. Le meilleur moyen, c'était son travail. Il vivait de ça, de ses bêtes, et il a pris ses bêtes et il les a offertes en sacrifice. Et plus que ça, il a pris l'attelage, il a brûlé pour faire le sacrifice. Là, il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Il est malin, ce Élisée, mais il est surtout très obéissant au Seigneur. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et on sait ce qui est devenu Élisée. Il est devenu le prophète qui a reçu la double onction. Alors, attention de ne pas trop revenir en arrière. Vous savez, il y a des vagues dans le milieu chrétien. Il y a des mouvements, il y a des tendances. Je dis souvent qu'on est le fruit de son époque et même, je dirais, de sa décennie par moment. C'est vrai qu'il y a eu un temps dans l'histoire de l'Église, ou même dans l'Église de manière proche, où on prêche un évangile des fois un peu simpliste. On dit, si tu crois en Jésus, dis oui à Jésus, ta vie va changer, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, waouh, et puis on y va. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Et c'est là qu'il y a eu aussi tout un mouvement aussi de relations d'aide qui s'est développé, la cure d'âme, avec plus ou moins teinté de psychologie. Et c'est vrai qu'avec des choses bonnes et moins bonnes. Et c'est vrai que les gens qui suivent le Seigneur, quand on dit oui au Seigneur, des fois ils ont des choses à guérir. Et il y a besoin de faire un travail aussi sur soi, traiter des choses du passé. Mais je dis bien guérir. Guérir. Il y a un moment donné, il faut arriver à une fin et pouvoir continuer. Il y a aussi un temps où on a découvert, redécouvert aussi la délivrance. Parce que des fois, il y a besoin de délivrance par rapport à son passé. Mais à un moment donné, il y a délivrance, il y a un travail à faire, mais il y a un moment de besoin aussi de se remettre en route. Alors, il faut un peu l'équilibre, vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que l'un vaut mieux que l'autre, parce que certains pourraient mettre plus l'accent sur l'un et sur l'autre. Mais j'aimerais juste rappeler ce matin que je crois aussi en la puissance de Dieu qui libère. Je crois aussi que, bien sûr, qu'on peut faire un travail sur soi, mais quand c'est fini, il ne faut pas y revenir tout le temps. Et il faut à un moment donné aussi avancer. Et parce que si on réfléchit bien, nous sommes des êtres imparfaits. Dieu nous a sauvés et on n'est pas parfait, on est en chemin et il y aura toujours des choses à trouver. Si on gratte un peu, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Alors, si vous êtes engagé vraiment dans un processus de relation d'aide ou de travail sur vous, faites-le. Faites-le jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y a un temps où c'est un temps de guérison. Et un temps où on peut avancer. C'est ce que le Seigneur veut. Et surtout, ne diminuons pas la puissance de Christ en regardant toujours aussi à notre passé. Ne diminuons pas la puissance de la nouvelle naissance, de la nouvelle création, des nouvelles créations que Dieu peut faire dans nos vies. Des nouvelles choses que Dieu peut faire dans nos vies. Parce que finalement, c'est parfois ajouter ceci ou cela au salut de Dieu. On ne veut pas rendre le salut incomplet en disant « Oui, j'étais sauvé, mais… » Il n'y a pas de « mais ». Et ce que j'ai envie de vous exhorter ce matin par rapport à ce fait de détourner notre regard du passé,
c'est qu'il faut éviter ces pièges du passé qui peuvent produire une diminution de notre foi en Dieu et en son action et à sa puissance. Alors, bien sûr, tout est une question d'équilibre. Il y a des pièges à éviter. Alors, j'aimerais terminer avec la deuxième partie. S'il ne faut plus regarder en arrière, ou faut-il regarder en avant? C'est assez simple, hein, ce matin. Me portant, dit l'apôtre Paul, vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Voilà ce qu'il faut faire. Fixer les yeux sur Jésus. Vous savez, l'apôtre Paul, concernant son passé, il va même plus loin. Il va parler dans l'épître aux Philippiens, versets 3 et 8, il dit, il considère tout son passé comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. À côté de Christ, tout le reste, c'est des ordures. C'est fort le terme qu'il utilise. C'est de la boue. Et on va aller remuer tout ça pendant toute notre vie. Laissons ça de côté. Vous savez, j'avais un vieux pasteur qui arrivait à la retraite qui m'a formé. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, Christian, si tu ne veux pas faire, tu veux pas t'épuiser, surtout quand tu suis les gens, occupe-toi dans leur vie de l'homme nouveau et pas de l'homme ancien. Ne soigne pas l'homme ancien, la vieille nature, mais soigne la nouvelle nature. Prends soin de la nouvelle. C'est là, elle a de l'avenir. Et ça m'a frappé, c'est vrai. Hein, il me disait, tu peux te perdre en soignant la vieille nature au lieu peut-être de la crucifier dans ta vie. Peut-être que tu peux cultiver la victimologie au lieu de te reconnaître pécheur. Tu peux apprendre à t'aimer toi-même. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a l'ère de l'ego, l'ère du selfie, l'ère on te livre ta pizza, on te fait tout pour toi. Et on peut être aussi s'aimer plus soi-même alors qu'on doit apprendre à mourir à soi-même. Ce n'est pas un message très intéressant aujourd'hui, très actuel. Alors, regardons cela comme de la boue, comme dit l'apôtre Paul, notre vieux moi, notre passé, et regardons en avant. Quelques pensées, pourquoi regarder en avant? Parce que d'abord, c'est un acte de foi. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit, « Nous regardons non au point de choses visibles, on pourrait paraphraser à mon vécu, mais à celles qui sont invisibles. » On est confiant. Il y a une dimension de foi, en fait, de foi de ce qui est devant. Parce que la Bible nous dit que nos destinées sont dans sa main. Nos destinées sont dans sa main, dans le Proverbe 31, verset 16. Notre avenir est là, il est devant nous et il est dans les mains de Dieu. Il n'est pas dans les mains de mon passé, de ce qu'on a fait dans ma vie, mais il est dans les mains de Dieu. Et ça, ça fait la différence. Amen. On ne peut pas changer notre passé, vous êtes d'accord? Mais s'il est dans les mains de Dieu, si notre vie est dans les mains de Dieu, il peut se passer des choses. Et Dieu a quelque chose de meilleur pour nous, comme il le dit dans Hébreu, pour les héros de la foi, il dit, à propos de ceux qui sont morts, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Le meilleur est devant, le meilleur est en Dieu. Il a le meilleur pour nous. Jérémie 15, verset 11 dit, tu as un avenir heureux. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Et veut libérer cette dimension de foi. Et un avenir heureux, c'est possible, même si on a vécu des choses tragiques. Le Seigneur nous encourage à regarder à lui et en avant parce que Dieu veut aussi qu'on puisse avoir un but dans la vie. Le peuple d'Israël, c'est vrai qu'il était, une fois sauvé, il avait un but, comme je l'ai dit, il avait ce pays promis devant lui. Dieu ne l'avait pas sorti d'Égypte pour le faire errer dans le désert. Ce n'était pas le projet de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes et des femmes qui ont un but, qui ont une vision d'avenir. Sans vision, le peuple périt, dit un verset. Et vous savez, le Seigneur nous encourage à regarder devant nous parce qu'il a une carrière pour nous. Il a des œuvres préparées d'avance. Mais des fois, la société fait mieux que nous en tant que chrétiens. On voit dans la société des personnes qui se disent, mais waouh, ils se projettent, ils font un plan de carrière, ils se disent, moi, dans 5 ans, je veux être là. Dans 10 ans, je veux être chef d'équipe, je veux faire des cours du soir. Et il y a un plan, ils avancent. Il y a un but. Et nous. Vous croyez que le Seigneur n'a pas des projets pour nous? Éphésiens dit au chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne veut pas nous amener dans des impasses. Il a une espérance, un avenir pour nous. Jérémie 31, verset 17, Apocalypse 3, verset 8, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Une porte ouverte, pas une porte fermée. Dieu ne veut pas, il veut pas nous mettre au chômage. Enfin, une dernière chose, le Seigneur veut qu'on regarde à lui et qu'on soit dans cette dimension d'être dans un mouvement en avant pour qu'on puisse montrer notre dépendance de lui. On est dépendant de Jésus. Il ne veut pas qu'on le perde de vue. Si on perd de vue Jésus, ben on est perdu. On est foutu. Qu'on puisse voir Jésus dans nos vies. Vous savez, il y a ces Grecs qui sont venus voir les disciples et ont dit « On aimerait voir Jésus. Nous voulons voir Jésus », ont dit ces Grecs. On veut voir Jésus. Je veux voir Jésus dans ma vie. Je ne veux pas avoir que mon passé ou mes exploits ou ce que j'ai fait, mais j'aimerais qu'on voit Jésus dans vos vies, dans ma vie. Et vous savez, le monde a besoin de voir Jésus. Le monde, si on leur montre notre religiosité, si on montre tout ce qu'on sait faire, notre chair, ça ne va pas l'intéresser, vous savez. Ça ne va pas l'intéresser. Le monde a soif de voir Jésus. Alors c'est vrai, quand on regarde en arrière, on peut être déprimé quand on regarde à nous-mêmes, quand on regarde à peut-être tout ce qui s'est mal passé, tout ce qu'on n'a pas pu vivre. On peut être déçu, on peut être triste, on peut même des fois avoir honte. Mais quand on regarde à Jésus, quand on regarde à lui, la Bible dit qu'on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. C'est le psaume 34 qui dit ça. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors je vous pose une question et je me pose la question. Est-ce que j'ai perdu ma joie ou est-ce que je suis en train de la perdre? Regardons Jésus ce matin. Demandons au Seigneur de nous toucher, de nous détourner de notre passé et des choses de notre passé qui nous tirent justement en arrière, qui nous arrêtent dans la marche. Je vous invite à juste baisser vos têtes, on va prendre un temps devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que Laurent, tu peux venir? Merci. Alléluia, Jésus. On veut juste prendre encore quelques minutes pour laisser de la place au Saint-Esprit dans nos vies. Je veux m'effacer, je veux le laisser agir. On veut juste le laisser nous parler encore ce matin. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il est là, en nous. Il connaît notre passé. Il connaît notre vie. Laissons-le nous parler encore ce matin. Prenons quelques minutes de silence encore. Peut-être que ce matin, certaines personnes se reconnaissent et disent « Mais c'est tout à fait moi, c'est ma tendance. Et ce matin, tu dis, je ne veux plus continuer comme ça. Peut-être libéré d'une manière de penser ou de voir. Un regard a changé. Peut-être ce matin, tu dis dans ton cœur, Seigneur, viens à mon secours. Alors si quelqu'un est dans une situation, dans cette situation, alors qu'on a les yeux fermés, qui lève juste la main, j'aimerais prier pour vous, pour elle, pour lui. Levez votre main à votre place. Et... Oui, je vois une main. Oui, merci. Merci, merci. Le Seigneur voit cette main levée. Avant que je prie pour vous, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ? Vous savez, c'est devant le Seigneur, hein, ce n'est pas pour moi. C'est un signe qu'on fait au Seigneur ce matin. On dit oui en levant la main. Ouais, est-ce qu'il y a encore des mains ? Oui. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées, Seigneur. Bénis ces mains qui sont levées, Seigneur, ce matin. C'est vrai, ce matin, en levant nos mains, cette main vers toi, c'est comme un geste de désespoir et en même temps un geste plein d'espoir. Parce que nous regardons à toi. C'est une main qui se lève vers toi, Seigneur, une main de foi, qui veut saisir ce que tu veux leur donner maintenant. Seigneur, tu vois que elles ne veulent plus continuer comme ça. Il faut que cela change, Seigneur. Toi seul peux les aider. Viens maintenant par ton esprit. Viens, Seigneur, détourner leur regard. Et viens, Seigneur, tourner leur regard vers toi. Viens les libérer au nom de Jésus de ce qui bloque ce matin. De tout ce qui vient du passé qui a besoin de guérison maintenant. D'une nouvelle saison, Seigneur. Et Seigneur, je dis au nom de Jésus que tous les liens, les chaînes qui retiennent soient brisés au nom de Jésus maintenant. J'appelle une nouvelle création par ton Saint-Esprit maintenant. J'appelle une mentalité nouvelle, renouvelée. J'appelle des choses nouvelles maintenant. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Tu es fidèle à ta parole. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.